C'est un point important, mais ce n'est pas le seul. Ce qui prime avant tout, c'est évidemment l'économie. La Colombie, 1 million de kilomètres carrés, c'est 28% de la population qui vit dans des conditions difficiles et dans la pauvreté. Et donc c'est vrai que cette réalité-là, sociale, économique, conditionne réellement le débat. Et ce débat public qui est évidemment porté par la problématique de la paix. Alors c'est vrai que c'est le point de clivage, puisque Iván Duque, qui vient lui-même finalement du milieu économique, il était ces dernières années le représentant de la Colombie à la Banque interaméricaine de développement, part du principe que la réduction des inégalités, essayer de favoriser un soutien aux entreprises, notamment aux PME, eh bien, va permettre de réduire cette fracture sociale et va contribuer d'autant au renforcement de la paix. Gustavo Petro est le candidat en effet de la gauche. Il a d'ailleurs comme candidate à la vice-présidence une élue de Bogota vert et essaie de pousser évidemment un peu plus le schéma social dans un pays qui souffre en effet de cette réalité et qui a souffert tout au long des dernières décennies, depuis les années 60, de ce conflit interne avec les FARC.
Alors Pascal Drouot, au premier tour, Gustavo Petro est arrivé en deuxième position avec 15 points de retard sur Iván Duque. Tous les sondages qui sont parus depuis pronostiquent par ailleurs une victoire d'Iván Duque. Il a vraiment une chance encore de l'emporter, le candidat de la gauche, ou bien le scrutin est plié, si on peut parler trivialement?
Écoutez, je dirais par définition, c'est une élection, et donc tant que l'élection n'est pas faite, tout est possible. Mais il est vrai que Iván Duque bénéficie de plusieurs choses. Tout d'abord, cette avance, 39% au premier tour, qu'il a portée, ça c'est indéniable, d'autant plus que Iván Duque est un homme jeune, il a 40 ans, et nouveau dans la vie politique colombienne. Il est rentré en Colombie il y a à peine 4 ans, est devenu sénateur dans la foulée et sénateur du parti Centro Democratico, mais il a su se détacher en partant de pas grand chose pendant cette campagne, en mettant l'accent, comme je disais, sur l'innovation économique, ce qu'il appelle l'économie naranja, et en effet la volonté de réintroduire une justice plus sévère dans les accords de paix. Et ce message a été entendu.
Pascal Roux, la clé de ce second tour, c'est quoi? C'est l'abstention? C'est le report des voix du troisième homme, le centriste Sergio Fajardo, qui a recueilli 23%, je le rappelle, des suffrages au premier tour. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre?
Alors, d'une part, sur le plan politique, c'est vrai que le centre est éclaté. Vous le rappelez, le troisième candidat, Sergio Fajardo, qui était le candidat du centre, est arrivé donc en troisième position, pas très loin d'ailleurs de Gustavo Petro. Il avait obtenu 23 points. Gustavo Petro, donc le candidat de la gauche, 25. Ça se joue surtout sur ce sentiment la Colombie, ce n'est pas le Venezuela. La Colombie, ces derniers mois, a accueilli plus de 700 000 Vénézuéliens. Et c'est vrai que la réalité que traverse le Venezuela a joué véritablement dans le débat public. Les Colombiens ne veulent pas avoir le sentiment d'être entraînés dans une crise régionale et dans la crise que traverse actuellement le Venezuela. Ça a joué véritablement en faveur de Iván Duque, et c'est vrai que Gustavo Petro a eu du mal, compte tenu de ses relations politiques avec notamment le président Maduro, a eu du mal à se détacher, même si pendant la campagne de l'entre-deux-tours, ces trois dernières semaines, il a essayé de revenir sur certaines positions. L'image d'une proximité avec le Venezuela lui a collé à la peau et, je crois, a joué en sa défaveur.
C'est la seule raison pour laquelle Gustavo Petro a du mal à rassembler les forces progressistes autour de sa candidature?
Pas seulement. Tout d'abord, c'est nouveau. La Colombie n'a jamais vu, depuis plus de 60 ans, un candidat de la gauche parvenir au second tour, et d'une gauche progressiste, puisque jusqu'à présent, la gauche était véritablement enfermée dans le conflit, et dans le conflit que portaient, pour le coup, les FARC. Les FARC, de par l'accord de paix convenu en 2016, n'existe plus, c'est devenu un parti politique. Leur candidat pendant la campagne présidentielle, qui était le leader de la guérilla, Timoshenko, Rodrigo Londoño, et son nom de guerre est Timoshenko, n'est même pas parvenu dans les intentions de vote à 0,5%. Donc, sur le plan politique, ce schéma armé, violent, disparaît, et c'est vrai que ça joue en faveur d'une alternative progressiste, en tout cas, on va dire, beaucoup plus douce sur le plan politique. C'est nouveau, c'est vrai que Gustavo Petro a surfé sur ça, et puis il a fait des propositions évidemment importantes, mais je pense que ça n'est pas suffisant, parce que pour le moment, les Colombiens ont eu le sentiment d'avoir été trompés, en fait, par les accords de paix. Ils attendent une justice, comme je disais, plus sévère vis-à-vis des auteurs de crimes, de guerre, ce qui n'est pas le cas pour le moment, puisque pour le moment, l'accord de paix stipule qu'une justice transitionnelle permettra de discuter et de réduire d'autant les peines pour ceux qui seraient reconnus coupables de crimes. Donc ça, c'est vrai que ça a heurté l'opinion publique, mais bien évidemment, ben c'est ce que l'on verra dimanche, mais Gustavo Petro a malgré tout essayé de donner une impulsion, cette impulsion d'une nouveauté, ben, la gauche au second tour en Colombie.